おかしいおかしい。
Je me rends compte de l'air qu'ils ont avec la réunion de la présentation.
Bonsoir. Dépôt ce mardi au Parlement du projet de budget 2011 dont le montant s'élève à 6 milliards de dollars américains. Selon le Premier ministre, c'est le budget le plus important de la RDC depuis 45 ans. Quelles sont les grandes lignes et les priorités de ce projet de budget? Trois invités participent à cette émission. Médard Moulangala, député national de l'opposition, rapporteur de la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale et président du parti politique Union pour la majorité républicaine UMR. Honorable Moulangala, bonsoir.
Bonsoir, Radio Okapi.
Christophe Lutundula, député national de la majorité et président du parti politique Mouvement Solidarité pour la démocratie et le développement MSDD. Honorable Lutundula, bonsoir.
Bonsoir.
Michel Saumoué, analyste économique et directeur général de la Fédération nationale des petites et moyennes entreprises du Congo, FENAPEC. Il va nous répondre dans un tout petit moment. Vos réactions, nous les avons déjà. Augustin Mango de Kalima au Maniema, je félicite notre gouvernement d'avoir majoré le projet de budget, car c'est inconcevable de voir un pays comme le nôtre avoir un budget plus petit que certains pays voisins. Et pourtant, nous avons beaucoup de potentialités. Mais une chose est certaine, notre budget augmente chaque année. Et curieusement, la situation sociale des Congolais ne s'améliore pas. Charles de Kinshasa, 7 milliards de dollars, c'est encore et toujours un budget de misère pour un Congo démocratique aux richesses diverses. Le gouvernement Mouzito devra aussi compter sur les paiements de l'impôt par tous, y compris les députés et sénateurs, dans le cadre de la mobilisation de recettes de son budget. Bienvenue à tous dans votre émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 678 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Le Premier ministre Adolphe Mouzito a déposé ce mardi au Parlement le projet du budget de l'État pour l'exercice 2011. Ce budget s'élève à 7 milliards de dollars américains. C'est un budget équilibré en recettes et en dépenses. Selon le Premier ministre, c'est le budget le plus important de la RDC depuis 45 ans. Nous allons avoir plus de précisions sur ce projet de budget avec le ministre du budget, Jean-Baptiste Nsawa. Monsieur le ministre, dites-nous quelles sont les grandes lignes et les priorités de ce projet de budget.
Les grandes lignes de ce budget, c'est quoi? Il y a 4-5 innovations, si je peux dire. La première chose qu'il faut retenir d'abord, c'est que c'est un budget qui est élaboré après l'atteinte du point d'achèvement. Et c'est donc, nous avons dégagé des ressources, que nous appelons des ressources PPT, des ressources orientées vers le sens de lutte contre la pauvreté. Ce qui fait que ce budget prend en son sein 23% destiné aux dépenses de lutte contre la pauvreté. Donc dans le secteur de l'éducation, de la santé, ainsi que de la protection sociale. La deuxième chose, c'est que c'est un budget que nous qualifions de dernier de cette législature. Le dernier budget de la législature qui prend en compte certains éléments en rapport à la fin des différents mandats, dont notamment celui de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et donc, nous avons pris en compte les indemnités de sortie. Il faut compter également la prise en compte des élections. Les élections prennent une part importante. Nous en avons pour à peu près 355 milliards de francs congolais pour le financement des élections. Ces élections financées pratiquement à part égale 50% partenaires extérieurs et 50% du gouvernement. Il faut également prendre en compte l'amorce de la gratuité scolaire. Donc nous avons commencé la gratuité scolaire au niveau primaire jusqu'à la troisième année. Pour ce premier volet, nous prenons la première année primaire jusqu'à la troisième année et nous pratiquons la gratuité scolaire, sauf pour la ville de Kinshasa et la ville de Lubumbashi qui seront prises en compte un peu plus tard. Ça, c'est une action vraiment très très importante puisqu'elle est inscrite dans la Constitution. Et son excellence, le chef de l'État, va insister pour que cette action soit prise en compte pour le budget 2011. Nous avons également la poursuite de la mise en œuvre de 5 chantiers. Vous connaissez notre programme d'investissement. Il y a une part importante qui est réservée pour 5 chantiers et pour le financement des investissements du côté agriculture, du côté énergie, ensuite du côté infrastructure, comme vous savez, et la santé.
Honorable Lutundula a voulu suivre le ministre du Budget qui était interviewé par notre conseiller Radjat Mpona. Comment vous avez reçu le dépôt de ce projet de budget 2011?
Bon, disons d'abord qu'il faut préciser sur le plan de principe, le budget a été administrativement déposé au bureau de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, dans l'après-midi, les documents ont commencé à nous être distribués. Il n'est pas encore présenté par le Premier ministre. Donc la plénière n'était pas encore saisie du budget. Deuxièmement, ils observent qu'il y a une petite progression. On est passé en fait de, si vous référez au budget de l'année dernière, nous sommes passés pratiquement de 5 milliards poussières, 5 milliards 6, à 6 milliards 7. Donc la progression est pratiquement de 20%. Je dois dire objectivement que, d'une part, on ne peut pas se satisfaire pour un pays comme le nôtre de 7 milliards arrondis, qui équivaut pratiquement au budget d'une université belge. Et le niveau de progression, grosso modo, si c'est 1 milliard de dollars, ça démontre aussi quand même que nous ne travaillons pas assez. Mais ceci dit, on ne peut pas non plus faire comme si il n'y a rien qui a changé, si petit soit-il. J'observe, sur une échelle de temps de 10 ans, on peut me reculer, à partir des années 80, où nous avions des budgets qui s'élevaient à des centaines de millions de dollars, qu'il y a quelques petites avancées, quoi que je l'ai dit au départ, et ne soient pas satisfaisantes et suffisantes aussi. Sur le plan administratif, il y a des observateurs qui décrivent qu'ils sont une fois de plus déposés en retard. Bon, il faut relativiser ça. C'est vrai qu'au terme de la Constitution, le dépôt du budget doit se faire au plus tard le 15 septembre. Mais également, au terme de la Constitution, le retard n'est sanctionné que lorsque le budget est déposé à 15 jours de la fin de la session. C'est-à-dire que si la session de septembre commence le 15 septembre pour se terminer le 15 décembre, à supposer que le gouvernement soit venu avec le budget après le 1er décembre, il est clair que nous sommes en dehors de l'obligation constitutionnelle, de la prévision constitutionnelle, et à ce moment-là, le gouvernement tombe. Donc, il est encore examinable, et je note même que nous avons un retard, grosso modo, de 3 semaines. Il y en a eu plus que ça. Hein. Voilà. Le ministre du budget que nous venions de suivre dit que c'est un budget élaboré après l'atteinte du point d'achèvement. Mais est-ce que ce budget est à la mesure des ambitions qui attendent le Congo, les élections notamment?
Moi, je ne suis pas de nature à faire la démagogie, à faire le populisme. Les attentes du Congolais, c'est quoi, grosso modo? Améliorer nos conditions de vie. Voir notre pays démarrer, entrer dans la cour des grands, ça veut dire en clair, le plus concrètement, bien loger, bien faire étudier nos enfants, bien nous faire soigner, bien circuler, bien manger, pour être concret. Et là, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui manquent. L'électricité, l'eau, et ainsi de suite. Donc c'est pas la mesure de nos ambitions, même pas de nos espoirs. Ça c'est clair. Mais, encore une fois, comme je vous dis, il y a une progression, si lente soit-elle, qu'il faut relever, tout en soulignant que, bon, nous avons quand même encore du pain sur la planche.
Et que nous ne travaillons pas assez.
En tout cas, à mon avis, on ne travaille pas assez. Ça n'est pas normal. Un pays comme le nôtre puisse avoir un produit intérieur brut de 13 milliards de dollars et un budget de 7 milliards, 6 milliards, 7. Alors que l'Angola en est à plus de 50 milliards. Voilà, il y a un problème. Même quand on nous compare avec le Congo-Brazzaville ou le Gabon, il faut relativiser, il faut voir le volume de potentialité de chaque pays, ses ressources humaines. Nous avons une population active très importante. Plus de 60% de Congolais sont constitués des jeunes. Nous avons un territoire très étendu, 2 millions 345 000 km², dont plus de 68% sont disponibles pour l'agriculture. Et on peut continuer la série, donc là, on ne peut pas pavoiser avec ça.
Honorable Moulanga, la petite progression, nous ne travaillons pas assez. Quelle est votre analyse à vous par rapport à ce projet de budget 2011?
Disons que je n'ai pas eu le temps matériel de le consulter en détail. Ce que je voudrais dire, c'est quelques commentaires rapidement sur des points qui m'ont semblé essentiels. L'atteinte du point d'achèvement, on en a parlé des mois et des mois, des semaines et des semaines, pour nous dire qu'après cela, tout irait mieux. J'aurais voulu, moi, dans ce budget, voir de manière très claire et précise ce qui a été effectivement réalisé comme économie, pour que l'on puisse savoir de quelle manière cela a été achevé. Comme je l'ai dit, le texte, je n'ai pas lu en détail.
Le ministre du budget parle de 23%.
Oui, c'est bien que l'on voit, qu'on analyse en détail, et que l'on voit ce qu'on a fait comme économie réelle. Parce que l'atteinte du point d'achèvement, comme je l'ai dit dans le passé, ne sert à rien si on ne parvient pas à mobiliser les recettes, d'une part, si d'autre part, le climat des affaires n'est pas amélioré. Parce que ça ne sert à rien d'avoir une solvabilité améliorée sur le plan des finances publiques, et au même moment d'avoir un marché des affaires, où il est impossible de travailler dans des normes acceptables. Ce n'est pas moi qui le dis, l'AFEC a écrit au Premier ministre pour nous dire ceci. Il y a des violations systématiques des textes. Donc je crois que l'ensemble des bureaux des affaires est d'accord pour dire que ce gouvernement-ci n'a pas réussi à créer les conditions nécessaires pour l'investissement, car comme vous le savez, il n'y a que l'investissement qui peut amener des richesses dans ce pays. Les autres commentaires que je voulais faire concernent la vision de ce budget par rapport aux fameux 5 chantiers. Je suis un peu inquiet parce que, avec les partenaires multilatéraux et bilatéraux, le document de base que nous avons est le document stratégique de croissance pour la réduction de la pauvreté DSCRP en sigle. Je ne me souviens pas que les partenaires se soient ni d'accord avec le gouvernement sur un fameux 5 chantiers. Donc, qu'on arrête de faire de la politique politicienne et que l'on se base sur des documents que tout le monde accepte, qui ont été négociés, avec un programme précis et pour lesquels des financements ont été trouvés. Deuxième remarque. Troisième remarque, le budget a augmenté, mais seulement en termes nominaux, 14,9%. En termes constants, il faut le constater que le budget n'a pas beaucoup bougé. Et même, lorsque vous voyez la structure du budget telle qu'elle est présentée aujourd'hui en termes de recettes, dans le budget 2011, il y a une tendance qui se confirme, à savoir que la plus grande partie de ressources viennent des partenaires extérieurs. Donc, c'est bien de dire que le budget a augmenté, ce n'est pas le fait de notre effort de augmenter les recettes courantes au niveau de l'OFIDA, au niveau de la DGI, au niveau de la DGRAD, c'est plutôt le fait des partenaires étrangers qui, à travers différents programmes, sont en train d'investir dans le pays. Enfin, je crois qu'il y a des questions qu'on doit poser, notamment à certaines recettes qui ne sont pas mentionnées ici. Je parle du secteur des hydrocarbures. Nous apprenons par des sources diverses que le gouvernement est occupé pour le moment à vendre des blocs pétroliers dans le lac Tanganyika, l'Altaberge, etc. Dans le budget, ici, ça n'apparaît pas. Donc, je me demande, est-ce qu'on vend, on cède gratuitement? Si oui, pourquoi? Et si on doit faire des recettes, pourquoi n'apparaissent-elles pas dans le budget que nous avons ici? Voilà une seule question que je voudrais poser au moment venu au ministre concerné au gouvernement, mais comme je l'ai dit, à ce stade. Et le document seulement cet après-midi, il m'est difficile de commenter, tout en disant, et je le répète, que lorsqu'on voit l'exécution du budget de l'État, c'est là où l'on constate que, entre les priorités annoncées et celles exécutées, il y a une marge terrible, avec toujours une tendance à pousser des recettes non prévues, plutôt que de exécuter le budget qui avait été voté.
D'ailleurs, c'est ce que dit cet auditeur, hein, Léonard Kyungu de Kalimio Katanga. Je pense que les priorités budgétaires sont toujours connues, mais les réalisations sont toujours difficiles à évaluer dans l'applicabilité. Michel Somoué, bonsoir, vous êtes en ligne.
Bonsoir monsieur, je suis Pierre.
Vous êtes analyste économique et directeur général de la Fédération nationale des petites et moyennes entreprises du Congo, FEMATEC. Vous avez suivi les honorables députés qui ont émis quelques réserves et qui ont parlé de progression minime dans ce projet de budget. Quelle est votre analyse?
Bien, j'ai été répondu que je n'ai pas suivi les honorables députés parce que j'étais en coupure de téléphone avec le studio.
Désolé alors.
Mais sinon, ce que j'ai pu comprendre, c'est que le Premier ministre a déposé ce matin le projet de budget pour les 2011, ce qui est quelque chose qu'il faudrait à mon avis féliciter, déjà. Bon, j'ai aussi appris que ce budget ne serait que de 7 milliards de dollars. Je dis ne serait que parce que, à mon avis, ça reste encore un budget qui n'a rien en rapport avec les besoins de l'État. Donc, quelles que soient les progressions dont on puisse parler, et encore faut-il dire qu'on ne peut pas parler des progrès de l'État si nous ne connaissons pas exactement le niveau d'exécution du budget 2010. Alors, par rapport à 2000, ce qu'on voit, est-ce que le budget 2010 a été effectivement exécuté à niveau de 5 milliards 6 ou de 5 milliards 2 ou de 3 milliards de 2 milliards, c'est des choses qui sont quand même importantes, il faut qu'on le fasse. Parce qu'une chose, c'est de gonfler les prévisions budgétaires, c'est pour ça qu'on n'y parviendra pas. Une autre, c'est aussi d'élaborer un budget réaliste qui fait de l'État réellement l'État. Parce que, avec votre autorisation, je pense toujours qu'il faut que la théorie économique sur le budget devrait nous enseigner également que le budget est l'expression de la raison d'être de l'État. Pourquoi une nation se doit-elle d'un État? C'est pour qu'il y ait une structure qui réponde à un minimum de ses besoins fondamentaux, qui ne peuvent pas être rencontrés par les activités égoïstes des individus. Alors à ce moment-là, il faut prévoir, est-ce que le budget que l'État congolais propose à la nation congolaise, est-ce qu'il prend en compte les problèmes des Congolais, effectivement, oui ou non? C'est là qu'il y a un problème. Et c'est ça qu'aujourd'hui, 1 milliard, 2 milliards, 7 milliards, 10 milliards, jusqu'à ce que comme on me dirait 15 milliards, ça reste pour moi toujours un budget chiffre.
Alors, Michel Somoué, un budget réaliste pour vous, de combien serait-il par exemple?
Mais un budget réaliste, il faudrait qu'on se dise au départ quels sont les besoins de la nation congolaise. Quand vous me dites que le budget est 7 milliards de dollars, ça veut dire que l'État congolais est disposé à dépenser 1000 dollars par individu pour toute une année de 12 mois. 1000 dollars pour toute une année par citoyen congolais, ça veut dire que l'État va résoudre quel problème ce citoyen congolais. Est-ce qu'avec 1000 dollars, on peut assurer suffisamment la sécurité, la défense des Congolais, y compris de leur territoire, quand on prendrait l'ensemble du budget pour ne l'affecter qu'aux dépenses militaires et de sécurité? Est-ce que ça suffirait-il? Est-ce qu'avec 1000 dollars par citoyen, l'État congolais rendrait aux citoyens congolais un service d'éducation et de santé viable? Est-ce qu'avec 1000 dollars par citoyen, l'État congolais serait en mesure de construire des infrastructures valables pour que, l'ensemble de ce qu'on appelle les biens publics? Est-ce que les biens publics, les besoins en biens publics de l'État congolais ou des citoyens congolais ou de la nation congolaise peuvent-ils être rencontrés de plus qu'à 1% en nous donnant des budgets de 5 milliards? Moi, je pense que ce n'est pas possible. J'ai l'impression qu'il y a 5 ans, les budgets de l'État congolais devraient être de 50 milliards. Aujourd'hui, cette progression, en tenant compte de la progression démographique, et en tenant compte aussi de la surveillance et des problèmes au quotidien, des problèmes de sécurité, des problèmes d'autres besoins sociaux fondamentaux. Il faut en tenir compte. Je ne voudrais pas prendre le risque de vous donner le chiffre précis de ce qui devrait être un budget réaliste aujourd'hui. Mais je dois vous dire, et vous serez avec moi d'accord, que 7 milliards de dollars, ça fait de notre temps un état énormément pauvre.
Honorable Christophe Lutundula, le Premier ministre, dit par exemple que ce projet de budget intervient au moment où les principales entreprises de l'État sont en faillite. Mais d'où viendront les ressources internes? Bon, écoutez, je voudrais tout d'abord apporter quelques petites précisions, ou disons, ma petite opinion sur quelques éléments qui ont été avancés tout à l'heure. Et là, je m'adresse pas seulement à mon collègue Moulangala, mais à l'ensemble du pays. Le point d'achèvement. On a trop fait de la démagogie autour du point d'achèvement. Le point d'achèvement, les politiciens notamment, non, pas seulement nous, les journalistes également, ça veut dire tout simplement, j'ai toujours pris une image, quelqu'un qui veut faire la course, mais qui a sur son dos
un poids tel qu'il ne peut pas courir. Et à un moment donné, on vient lui enlever le poids. C'est ce que nos créanciers ont fait. Le Congolais, vous ne marchez pas, vous n'arrivez pas à décoller. Le poids de la dette, 80%, nous vous dégageons ce poids de la dette. C'est ce qui a été fait. Il n'y a pas eu de l'argent frais qui est arrivé. Il faut tout simplement espérer que l'enveloppe qui devait être affectée au remboursement de la dette devra être disponible pour d'autres financements, pour d'autres dépenses publiques, investissements ou dépenses courantes. Je crois que c'est extrêmement important. Ça veut dire en clair ceci. Il faut savoir qu'on n'a jamais remboursé par an 100 millions de dollars hein, de remboursement. Tout au plus, quand on le fait, c'est peut-être 7-10 millions en l'espace de mois, le plus souvent d'un trimestre. Il faut s'être arrêté quelque part. Celui qui ne rembourse pas la dette, même si on la lui remet, il ne s'enrichit pas automatiquement. Donc, l'effort de mobilisation de ressources, l'effort pour augmenter le volume de la trésorerie publique, il demeure. C'est très important. Donc, je n'ai jamais pensé, moi, qu'avec tout plein d'achèvements, il y aurait de l'argent à flot qui coulerait quelque part au Congo. Il faut que tout le Congolais le sache, le reste, la démagogie. Deuxième élément, les climats... Non, il n'y a pas un état optimal des climats des affaires. Pas plus au Congo qu'ailleurs à travers le monde. Il y a de fondamentaux que l'on réussit à créer et, je l'ai dit un jour à une grande société pétrolière, je crois, britannique, et BP, si je ne me trompe pas, British Petroleum, je l'ai rencontré. C'était responsable quoi en Europe, je leur ai dit, si vous attendez l'état optimal de l'amélioration du climat des affaires, vous ne viendrez jamais au Congo, peut-être dans d'autres pays. Surtout un pays post-conflit comme le nôtre, il y a la justice qui participe à ça, il y a la sécurité des personnes et des biens, il y a le système bancaire, il y a toute une série de questions, le système fiscal, et aujourd'hui, je crois, il y a eu des améliorations significatives qui ont été faites. On a adhéré à l'OADA, il y a la stabilisation du cadre macroéconomique. Le taux d'inflation a été maîtrisé, nous sommes aujourd'hui le grand maximum 8%. La monnaie, ça se stabilise parce qu'il n'y a pas aussi un niveau de stabilisation linéaire, vous comprenez. Donc moi, je pense qu'il y a des efforts qui sont faits, insuffisants, mais qui sont quand même faits, il faut le souligner. Bon, le collègue a parlé de recettes des hydrocarbures, l'exécution du budget. Je suis d'accord avec lui. Mais je voudrais que les collègues députés et sénateurs, et même le Congolais, qui ont des informations réelles, vérifiées, sur des anomalies qui apparaissent dans la gestion de notre pays, aient le courage de le dénoncer. Ça nous permet de travailler. Je voudrais également, pour l'exécution du budget, je suis heureux parce que Médard, lui-même, mon collègue, il est quoi le rapporteur de la commission des copies, qu'il fasse le rapport, le travail. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale prévoit précisément que chaque trois mois, l'Assemblée nationale traverse sa commission ECOFIN, évalue l'exécution du budget et du fait rapport. Donc,
mais malheureusement, malgré ces observations, vous finissez par voter le budget.
Ah, là, il y a un problème. Mais je voudrais préciser que la tâche de contrôler, d'évaluer le budget, ce n'est pas du côté du gouvernement qu'il faut regarder. C'est de l'autre côté à nos parlements. Je vous dis que moi, ce n'est pas la démagogie. Alors, vous m'avez posé la question sur
les entreprises qui sont en faillite.
Oui, oui. Non, écoutez, nous avons un problème. Ça fait plus de 20 ans que nous devions faire la réforme du portefeuille. Je crois que le collègue Médard Monangala, qui a été même membre du gouvernement, connaît peut-être le dossier mieux que moi, parce que depuis longtemps, au Congo et en Afrique en général, nous refusons les réformes. C'est quand ça devient trop tard, quand on ne peut plus rien relever, qu'on commence à se regarder. Il y a une réforme du portefeuille qui a été amorcée, nous avons voté des lois de réforme, il faut continuer la réforme, mais dans la transparence.
Honorable Mlangala, vous allez certainement réagir hein, très rapidement à ce qu'a dit l'honorable Lutundula, mais il y a cet auditeur Adrien Ilobako et Perro, il est à Kananga, au Congo occidental, qui dit, étant donné que l'année 2011 est une année électorale, qu'est-ce qui prouve que ce budget va réellement profiter au peuple congolais? Les politiciens ne risquent-ils pas de nous le priver? Aussi, le ministre du budget a fait tout à l'heure allusion à vos indemnités de sortie. Hein. Tout cet argent ne va-t-il pas aller dans cette rubrique?
Je ne pense pas. Vous savez que mes collègues parlementaires n'ont pas des évoluments faramineux. Je pense que le peu qu'ils reçoivent leur permet juste de faire face à leurs obligations, tant personnelles, celles du parti et celles de la base. Et pour revenir un peu à l'actualité immédiate, je voulais demander à notre à M. Sombre de la FENAPEC qui nous dise ce que la FENAPEC pense du climat des affaires. La FENAPEC a écrit un document que tout le monde a lu et qui est très clair. Je voudrais savoir de sa part ce que la FENAPEC pense du climat des affaires. Premier élément. Deuxième élément par rapport au climat des affaires, les données sont là. Doing Business place le Congo en position bien connue, 172e je crois, sur près de 175. De ce côté-là, il faut être regarder les choses en face. Nous ne sommes pas. Nous sommes loin de ce que l'investisseur moyen attend d'un pays pour mettre ses capitaux. Cela étant dit, je voulais maintenant revenir sur la question relative à l'exécution du budget pour dire deux choses. La première, c'est que oui, c'est vrai, la loi nous autorise à le faire chaque trimestre, mais la réalité des faits est que ce n'est qu'en 2009 que l'Assemblée a commencé à faire le travail. C'est ça la réalité que nous avons vécu, c'est ça la réalité. C'est pourquoi ? Une bonne question. Il faut se poser d'une manière globale, parce qu'à la fin de la journée, l'Assemblée est dirigée par une structure, par un bureau. Il y a des groupes parlementaires, il y a une majorité, il y a une opposition. Le vote se fait d'une certaine manière. Donc là, on prend les décisions. On fait des recommandations à la plénière où la réalité du vote est connue. Donc, sous mon regard, s'il n'y a pas eu nécessairement ce contrôle-là, sous mon regard, peut-être vous verrez que la solution doit venir de ce côté-là.
En tout cas, je ne vois pas de quel côté.
Cela étant dit, je crois qu'un rapport a été fait, qui va, j'espère, être soumis à la plénière, et que maintenant que nous avons eu le document du budget 2010, et que nous allons travailler et faire le rapport. Faire le rapport, c'est une chose, mais par rapport à ce que nous faisons, il faut voir qu'est-ce qui est, quels sont les résultats qu'on reçoit de l'autre part. L'Assemblée fait des résolutions et des recommandations. Le jour où nous allons nous asseoir et se présider et évaluer tout ce qui a été fait comme recommandation, et évaluation par l'Assemblée nationale, et voir dans quelle mesure elles ont été entendues, exécutées ou même considérées, là, on aura une idée très précise de la manière dont les choses fonctionnent.
Moi, en tant que Vital Camille, il disait que le taux d'exécution était presque nul. Hein?
Écoutez, je crois qu'il faut partir sur base de données. S'il l'a dit, je crois qu'il devait l'avoir vécu et l'avoir regretté. Donc, il y a à ce niveau-là un problème de volonté politique. Il faut appeler un chat par son nom. Il faut que nous puissions savoir qu'au niveau de notre institution, qu'au niveau du gouvernement, il y a une difficulté à ce que l'on puisse aller en profondeur dans la prise en compte des considérations ou des recommandations faites par l'Assemblée nationale. Donc, entreprise publique, juste un petit mot, les lois ont été votées. Je constate que la méthode utilisée jusqu'à présent nous inquiète quelque peu, parce que si l'on prend le cas de la cession des concessions de Kilomoto, notamment Moto Gold, on constate que la procédure que vous avez nous-mêmes recommandée ne semble pas avoir été respectée. Alors, si on commence de cette manière-là, on devrait être inquiet parce que, quelque part, on a le sentiment que les meilleures pratiques en la matière, celles qui consistent à une bonne évaluation des ressources, à un appel d'offres, à une sélection rigoureuse, on a l'impression que ces méthodes-là ne sont pas appliquées. Et cela nous inquiète.
Alors, honorable Moulanga, à vous comprendre, quand vous parlez du climat des affaires, c'est que vous doutez, si je ne me trompe pas, vous doutez que les 4 milliards de dollars comme ressources internes ne seront pas mobilisés.
Je dis ceci, je dis que la création de richesse passe par l'investissement. Et l'investissement, notamment, est lié au climat des affaires. D'où j'ai posé la question. L'AFEC a dit très clairement sa position par rapport au climat des affaires. J'aurais voulu entendre ce que dit la FENAPEC, notamment, qui est à un niveau différent, mais qui n'est pas à déconsidérer dans la prise en compte des remarques ou des commentaires que font les hommes d'affaires de ce pays.
Voilà, M. Nsomwe de la FENAPEC, qu'est-ce que vous répondez à l'honorable Moulanga ?
Bien, d'abord, d'une façon générale, j'ai toujours considéré que l'honorable Lutondo a été un brillant juriste. et un homme doté d'une belle oratoire et d'une cohérence syntaxique qui ne sont pas à démontrer. Mais par contre, je n'apprécie pas ces talents d'économiste. Donc quand il fait cette apologie d'un cadre macroéconomique stabilisé, d'un taux d'inflation maîtrisé, j'ai l'impression que là demain, mon frère n'a pas tenu compte de la science économique du tout, parce que l'économie a ses
variables,
l'économie a ses variables, il faut les analyser dans leur système. Et on peut parler d'une stabilisation d'un cadre macroéconomique lorsque l'économie même n'existe pas. On ne parlera pas d'une stabilisation de la monnaie lorsque la monnaie n'est qu'un bref. C'est quand même des choses qui sont des concepts économiques qui ont leur contenu précis et sur lesquels on ne peut pas engager un débat et considérer qu'un meilleur allié à monnaie peut être stabilisé. Il ne faut jamais oublier qu'un homme qui est mort, et on peut se tromper de mortier et considérer qu'il n'est plus malade. Donc ça, c'est un point qu'il faut considérer. Alors, en ce qui concerne le climat des affaires, je sais que le gouvernement et le pays en général sont dotés de beaucoup de bonnes intentions sur le climat des affaires. C'est vrai, on a publié la loi sur l'autorisation à l'OADA. C'est vrai qu'il y a beaucoup de textes réglementaires qui ont été publiés en temps pour améliorer le climat des affaires. Mais là, on n'est qu'au niveau des textes. Au niveau de la CENAPEC, par exemple, vous savez que l'activité économique, la plupart des membres de la CENAPEC sont aujourd'hui éparpillés dans ce qu'on appelle communément l'économie informelle. Ça veut dire quoi l'économie informelle? Ça veut dire simplement une économie qui refuse à l'État le droit de regard sur ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas de compte à rendre à l'État, mais ils n'ont rien à gagner de la part de l'État. Et qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Cela veut dire que l'État a des dettes énormes vis-à-vis des opérateurs économiques congolais, que l'État refuse de rembourser. C'est ce que vous appelez généralement la dette intérieure. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a de la dette intérieure? Pour pouvoir la rembourser, il faut nécessairement respecter le principe de la Banque mondiale qui consiste à quoi? À la décoter complètement pour donner aux Congolais les miettes à la place de leurs droits et remplacer des créances des individus, des sociétés, des débrouillards, des gens qui n'ont pas accès aux crédits bancaires, qui ont souffert de leurs yeux pour pouvoir bâtir difficilement leurs entreprises. Et ils ont rendu des services énormes à l'État, ils ont passé par des marchés publics et ils ont gagné honnêtement, et au moment de les payer, vous dites non, et on peut vous votre créance, vous voulez qu'on vous la paye, et bien monsieur, vous acceptez de perdre 80%, 75%, 85% de votre créance, je crois que là, il y a tout qui ne va pas. Là, on parle des améliorations du climat des affaires, ça c'est le découragement des affaires. Au-delà de ça, vous avez des opérations bons du trésor, qui ont été affectés par la Banque centrale et par l'État, dans lesquels les opérateurs économiques membres de la CENAPEC ont énormément perdu de l'argent. Jusqu'aujourd'hui, ils ne sont pas remboursés. Combien ça coûte de rembourser les bons du trésor à des citoyens congolais? On voulait se précipiter sur la question du règlement de la dette extérieure qui est déjà colossale. Quand est-ce qu'on va penser à l'intériorisation, à l'intégration de l'économie, au développement de l'économie interne, intérieure? C'est un problème. Il y a plein de litiges comme ça que les membres de la CENAPEC ont vis-à-vis de l'État lui-même. Et sur lesquels l'État ferme les yeux, et l'État se montre quelque part un peu irresponsable par rapport aux opérateurs économiques. Le climat des affaires,
c'est
faciliter également aux PME congolais de l'accès au crédit pour que ces PME soient en mesure d'investir. Mais où sont les banques congolaises, la capitale congolaise disposée à financer l'économie congolaise? Où sont-elles? C'est ça le problème. L'État a commencé à démanteler tout ce qu'il y avait comme banque à capital congolais. Il y en a plus une seule, démantelée par l'État lui-même, à travers la Banque centrale du Congo. Si c'est elle qui va gérer les banques privées, et c'est elle qui va les déclarer en faillite elle-même avec ses comités de gestion à la tête de chaque banque. Ça crée une sorte de complicité contre une nation. Hein. C'est l'impression que ça donne. Maintenant, nos opérateurs économiques sont là, c'est vrai, de tous les mécanismes de financement. On est incapable de développer un marché monétaire suffisant, incapable de jeter les bases des marchés financiers au Congo pour permettre aux investisseurs congolais d'accéder aux capitaux dont ils ont besoin pour développer l'économie nationale. Mais clairement, quand on parle de climat des affaires, ça veut dire quoi? Ça veut dire des regards tournés vers les investisseurs étrangers. Ça veut dire venir conquérir le territoire congolais. Mais que pensez-vous des opérateurs d'économie congolais qui constituent 99% de l'économie nationale? C'est là qu'on peut parler du climat des affaires. le climat d'affaires. Est-ce que vous pensez vraiment que toutes les multinationales, avec tous les milliards qui brassent chaque jour, ont vraiment besoin de se voir pour les diriger? Parce que s'ils veulent prendre le climat, le combat, ils savent comment le faire. Regardez à l'Est comment ils ont fait. Donc, pour eux, ce ne sont pas ces voix qui comptent. Ils peuvent arriver dans ce territoire et prendre des capitaux quand ils veulent, comme ils veulent, tout le monde le fait. Ils veulent distribuer des armes et puis ils le font. Mais le climat des affaires, nous, au niveau de la salle à paix, nous considérons qu'il y a une volonté réelle du gouvernement. Lorsque nous allons voir le gouvernement s'impliquer dans des mécanismes, dans la facilitation des mécanismes de financement en faveur des PME congolaises, nous croirons à cela, nous trouverons l'État s'ouvrir réellement et sincèrement vers les PME congolais, vers la Sénatec, vers la Coupe des Cons, pour dire voici des marchés publics, où sont vos entreprises, venez gagner des marchés de construction, parce qu'il y a la technique, il y en a la technologie, l'intelligence congolaise, il y en a pour le faire.
Merci Michel Somoué. Avant de donner la parole à l'honorable Lutundula, prenons les questions de ses auditeurs.
Carle Moïse Malemba de Bukavu. Ce budget est loin de faire l'objet de nos attentes parce que partout il y a grogne. Le social, rien ne va. C'est mal parti. Les enseignants, rien ne va. Les parents, un pays ne doit supporter les enseignements. Les diversifications sont vraiment visibles par rapport aux priorités que devait prendre ce budget.
Malonga de Bandundouzou, nous entendons l'exécution budgétaire au paiement des enseignants, des militaires, des fonctionnaires de l'État et autres. Le service émanant du budget pour alléger la charge à la population, longtemps victime de cette crise budgétaire.
Honorable Tundula, un mot sur ces réactions d'auditeurs.
Oui, pas de problème avec ce qu'ils voient.
Ils s'attendent à l'amélioration du social, mais
moi je dis toujours ceci, on n'améliore pas le social des Congolais avec 7 milliards de dollars. Si vous dites que vous allez améliorer le social de Congo avec 7 milliards de dollars, vous êtes en train de mentir. J'ai toujours dit qu'il nous faut travailler pour produire des richesses. J'ai toujours dit qu'il faut avoir des politiques salariales qui répondent aux exigences de gestion et d'équité. C'est-à-dire que je considère que ceux qui ont la charge de gérer l'État, de faire travailler les Congolais, ne peuvent pas vivre comme si ils n'avaient pas d'obligation, comme si ils avaient plus de droits que ceux qui n'attendent qu'à travailler, qu'à se mettre au service de l'État. Je crois que c'est vers cette direction-là qu'il faut aller. Je reviens à ce que M. Somoué a dit. Il n'est pas nécessaire, M. Somoué, d'avoir le diplôme d'économie, d'avoir des spécialisations en politique monétaire et que sais-je encore, pour observer et pour comprendre. Les cadres économiques, il n'y a pas des mythes autour de ça. C'est palpable, on vit ça au quotidien. Et je note que lui qui est spécialiste ne va pas donner des éléments qui nous contredisent. Il a cité une série de questions qui sont réelles. Écoutez, moi j'étais de 88, je crois, jusqu'à 89, au ministère de l'économie, conseiller chargé de petites et moyennes entreprises avec Pierre Sélémane. Je connais le problème des PME. J'ai eu à négocier avec les Belges des financements pour les PME. Donc, il ne m'a pas dit que le front congolais qui a commencé à 900 poussières est arrivé aujourd'hui à 2000 de dollars. Il ne l'a pas dit. Il ne m'a pas dit que le taux d'inflation aujourd'hui est celui qu'on a connu à l'époque des canapères ou il y a pendant la guerre. Il ne m'a pas dit le contraire. Donc il faut éviter des affirmations de ce genre-là et avoir un peu de modestie, même si on est spécialiste dans un domaine. Je voudrais également dire un mot, parce qu'on n'a pas entendu dit, concernant les ressources extérieures. Oui, l'État a raison, mais il faut nuancer. C'est vrai, lorsque vous regardez le budget actuel, vous trouverez que les recettes courantes de l'État sont inférieures aux recettes qui viennent de l'extérieur, aux ressources extérieures. Mais si vous prenez globalement, vous êtes dans les rapports de 2 à 4. Alors qu'il n'y a pas longtemps, nous étions dans les rapports de 50-50. Vous comprenez? Il faut relativiser tout cela. Et toutes les questions que M. Somoué a relevées, il n'a pas dit que quelque part, les choses sont restées égales comme,
quand nous étions avant cette période.
Merci.
Voilà, moi je ne fais pas la démagogie.
Honorable Mangala, permettez que je prenne ces quelques réactions d'auditeurs et vous allez réagir. Kassamba Wamango de Bounia en province orientale, espérons qu'avec ce projet de budget, nos gouvernants vont nous verseront du miel dans la bouche au lieu d'en verser dans les oreilles comme ils en ont l'habitude. Kikiri Saïdi Papi d'Ovira, expliquez-vous en quoi le budget 2011 sera-t-il différent des budgets précédents qui, dans leur application, n'atteignaient même pas 70%. Sylvain Banza de Mbujima au Kasai Oriental pense pratiquement la même chose. Théo Moulumba de Kananga au Kasai Occidental, par rapport à quoi le Premier ministre dit que le budget de 7 milliards est important, celui de 2010 a-t-il existé? C'est une distraction. Cédric de Kalima au Maniema, même si l'on estime que ce budget serait le meilleur, il ne pourra décompter les problèmes du Congolais parce que même les budgets des années précédentes n'ont servi à rien, honorable Mangala.
Je crois que de tous les propos tenus par les auditeurs de Radio Okapi, se dégage une constante. Le manque de confiance. Ça, c'est ce que j'ai observé dans ce que vous m'avez lu comme texto, et d'autre part, dans les commentaires faits par la FONAPEC. Il y a rupture de confiance, il y a manque d'état de confiance des hommes d'affaires par rapport au gouvernement, il l'a dit.
Et de la population par rapport au gouvernement.
Et si, avant cela, comme je l'ai dit, la Fédération d'entreprise du Congo, la FEC, tient le même discours, on ne peut pas me dire ici que le climat des affaires est bon, le manque de confiance est visible. Donc, quelque part, dans ce que le gouvernement fait, il n'y a pas eu les moyens de convaincre les acteurs économiques et encore moins la population. C'est un constat que je fais ici avec vous. À cela, je veux ajouter quand même deux points.
Très rapidement,
la gestion des ressources naturelles non renouvelables. Ce pays en a en abondance. Je n'ai pas le sentiment qu'au niveau du gouvernement, la politique appliquée puisse garantir une gestion rationnelle et efficiente de ce secteur-là. Et dernier point, enfin, le ministre du Budget a parlé de l'énergie qui serait prise en considération dans le budget 2011. J'espère que cette fois-ci, TNB sera dans le budget 2011 parce que les promesses ont été faites de manière répétée. Ce que préparent les chefs de l'État, à plusieurs reprises à Canada, quatre fois je crois, et cette fois-ci j'espère que dans le budget 2011, sera bien inscrit.
Monsieur Nsomwe, avec tous ces éléments que vous donnez ici, n'êtes-vous pas en train d'effrayer la population congolaise quant à l'exécution de ce budget, le prochain budget 2011?
Ce que j'ai aimé au départ, c'est lorsque l'honorable Tondola disait que les Congolais devraient, pour aider le gouvernement et les institutions de la République, dire la vérité, dénoncer ce qui ne va pas et à haute voix, pour que le pouvoir en place puisse réajuster le tir et avancer. Je ne le dis pas pour effrayer. Par exemple, en toute modestie, je devrais dire en toute modestie à l'honorable Tondola, parce qu'apparemment il a oublié que lorsque le franc congolais a été créé et mis sur le marché, c'était à la parité de 1 dollar pour 1,3 francs congolais. Et aujourd'hui, nous sommes à la parité de 1 dollar pour 920 francs congolais. Faites le rapport, ce qu'on appelle la variation de la valeur de la monnaie, et vous allez me dire qu'est-ce qui reste au franc congolais encore comme monnaie.
Résumez-vous, parce que l'émission va toucher à cette émission, mais je vous en prie, résumez-vous.
J'aimerais ajouter simplement ceci. Que quand nous parlons, c'est important, mon frère, c'est important de fixer les idées du Congolais sur ces choses qui sont quand même d'ordre technique. Une monnaie doit réunir trois qualités: la liquidité, la convertibilité et la stabilité. Et l'histoire, c'est que doivent marcher de pair et en même temps.
Merci.
Vous avez une monnaie qui n'est pas convertible. Vous avez une monnaie qui n'est pas liquide. Vous avez une monnaie qui n'est pas stable. Ça, c'est la vérité. Scientifiquement prouvée et démontrée. Je l'ai démontré devant un grand auditoire de l'Université de Kinshasa.
Alors, conclusion, monsieur Nsomwe, concluez, s'il vous plaît. En même temps,
par rapport à votre question, je ne suis pas en train d'effrayer les Congolais. Je suis en train de dire au gouvernement que nous avons vraiment besoin que le gouvernement repense profondément son budget.
Merci, monsieur Nsomwe, honorable Lutondola. Un mot en guise de conclusion.
Oui, en guise de conclusion, je voudrais tranquilliser, mais c'est moi, je ne suis pas venu faire l'apologie de l'action gouvernementale, mais je ne suis pas non plus négationniste. Je crois qu'il faut avoir les pieds sur terre. Les phénomènes économiques, ça avance.
et il y a des dynamiques sociales et politiques qui changent les choses. Travaillons, prenons de la peine, c'est le fonds qui manque le moins, et le Congo ira mieux.
Honorable Moulangala.
Manifestement, le gouvernement n'a pas convaincu. Ce budget, je le crains, n'apportera pas les résultats escomptés à la population sur le plan social. Et quelque part, la fin de son achèvement ne sera qu'à l'heure s'il n'y a pas l'amélioration du climat des affaires.
Merci à Guy Massé, à Kelly Couté, Samuel Kachak, qui ont travaillé sur la supervision de Martin Sebouzangwe. Et merci surtout à vous de nous avoir suivis. William Lungamba était à la mise en monde. Bob Lando à la coordination technique. Bon type de programme sur Radio Kachak.
Okay.